Je vais passer la parole maintenant à Corinne Herskovitch, qui est avocate au barreau de Paris et qui est une spécialiste de droit de l'art et qui a eu à connaître d'abord les dossiers de restitution liés à la Seconde Guerre mondiale. Mais elle travaille aussi sur les questions de provenance, d'authenticité et les problèmes liés aux exportations d'œuvres d'art et du patrimoine culturel. Alors, elle a participé à de nombreuses conférences consacrées à ces domaines d'intervention, publié des ouvrages. Donc, c'est elle aussi une professionnelle de l'exposé concis, pédagogique et éclairant.
Merci beaucoup, j'ai bien compris le message. Et merci donc à Bénédicte Savoie et Yann Potin pour l'organisation de cette journée qui fait progresser beaucoup ce sujet. Et c'est finalement l'essentiel. Merci de m'avoir invitée. Et donc, moi, je vais vous parler en tant que praticienne du droit. Je vais essayer d'être concrète et concise. Et je vais donc, dans un premier temps, recadrer un peu l'aspect juridique, en tout cas le chemin juridique qui peut être celui de l'avocat quand un problème de revendication se présente, pour en finir en deux mots avec mon expérience, notamment dans le cas des revendications de biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc je reviens très rapidement sur des concepts qui ont déjà été largement évoqués. La place de l'objet dans le droit continental, donc effectivement en droit continental, l'opposition entre le sujet de droit et l'objet. Le sujet de droit, qui est un support de la personnalité juridique, a la capacité de posséder, et donc de jouir et de disposer de la manière la plus absolue de ce qu'il possède. Comme l'objet n'est pas censé être revêtu d'une personnalité juridique, il a fallu protéger l'objet. Et j'en viens tout de suite à l'objet culturel. Il y a une protection très particulière en droit français de l'objet culturel, qui varie selon que l'objet culturel se trouve dans une collection publique ou dans une collection privée. Lorsque l'objet fait partie d'une collection publique, il est protégé par deux piliers du droit français que sont l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité. Ce sont ces deux piliers notamment qui aujourd'hui s'opposent à toute restitution d'objets qui ferait partie d'une collection nationale. Quant aux collections privées, les objets des collections privées bénéficient d'une présomption de propriété qui est inscrite à l'ancien article 2279 du Code civil devenu 2276, en fait de meubles, possession, vos titres. Nous voilà donc bien protégés dans la possession et la propriété des objets. Et donc, qu'est-ce que la personnalité juridique va pouvoir apporter à ce cadre bien posé? Je rappelle en deux mots ce que peut vouloir dire la personnalité juridique, et là je m'appuie sur le grand juriste René Desmogues, qui déjà en 1909 s'interrogeait sur la personnalité juridique et disait « La qualité de sujet de droit appartient aux intérêts que les hommes vivant en société reconnaissent suffisamment importants pour les protéger par le procédé technique de la personnalité ». On voit tout de suite ce que pourrait éventuellement apporter la personnalité juridique aux objets culturels, puisqu'on semble y attacher une importance très grande. Et à l'époque de René Desmogues, l'interrogation portait déjà sur la fiction, mais qui tenait à la personnalité morale. C'est-à-dire que jusque-là, le sujet de droit, c'était la personne physique. Et puis, on s'est posé la question de savoir si les entités, alors surtout les sociétés évoquées par M. Suppiot tout à l'heure comme des monstres, eh bien, on les a en plus dotées de la personnalité morale, ce qui leur permettait donc de posséder, de se défendre, d'avoir des droits et des devoirs. Et puis, plus proche de nous, on en est venu à s'interroger sur la personnalité des animaux. Et là, on a un petit peu travailler sur la sensibilité. On a reconnu la sensibilité des animaux. On a créé un code de l'animal, parce que la France est une grande codificatrice. Mais pour autant, on n'a pas reconnu la personnalité juridique aux animaux. On s'interroge là plutôt sérieusement sur la personnalisation des robots, accorder la personnalité juridique aux robots. Et là, c'est pour une raison très particulière qui va dans l'autre sens, c'est que le robot va pouvoir causer des dommages. Et il va donc falloir organiser la possibilité pour les victimes de dommages causés par des robots de pouvoir ester en justice et demander réparation d'un éventuel dommage. Voilà ce qu'il en est du droit français en matière de personnalité juridique. Alors, on vous a parlé des personnalisations dont ont fait l'objet les fleuves Whanganui en Nouvelle-Zélande, le fleuve le Gange et son affluent, le Yamuna en Inde. Je l'évoque très rapidement simplement pour retracer un peu la manière dont ces personnalisations se sont créées. En Nouvelle-Zélande, en réalité, c'est la reconnaissance des droits des peuples autochtones. C'est grâce à la reconnaissance des droits des peuples autochtones et à la bataille menée par ces peuples autochtones pour récupérer leur territoire et leurs droits sur leur territoire. Leurs droits sur leur territoire, c'est aussi le droit d'exercer leur culte et leurs usages. Et donc, c'est par ce biais-là qu'un accord est intervenu et que le Parlement a fini par donner la personnalité juridique au fleuve Whanganui et effectivement à, de cette manière-là, rendre aux Maoris les droits qu'ils avaient sur tout ce territoire qui est autour du fleuve Whanganui. En Inde, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une action qui s'appelle la Public Interest Litigation, et c'est par ce biais-là qu'une personne, c'est une action qui permet à toute personne de saisir la justice par tout moyen matériel, donc c'est extrêmement simple, et une personne peut, sans même démontrer son intérêt à agir, aller revendiquer devant une haute cour de justice des droits, et là, c'est ainsi que les droits du Gange et de son affluent, le Yamuna, ont été revendiqués, et que la haute cour de l'État fédéral concerné a fini par reconnaître un droit, une personnalité juridique à ces fleuves. Mais ces deux approches ont en commun que, en fait, c'est une prise en compte des usages et coutumes de peuples autochtones, du culte des divinités d'un fleuve, qui amène, dans la common law qu'on vous a décrit, qui amène une autorité judiciaire ou un parlement à reconnaître une personnalité juridique à un élément de la nature. Alors, je me suis interrogée, en tant que praticienne, à l'intérêt que pourrait avoir la personnalisation des objets dans les combats que j'ai pu mener devant les tribunaux. Simplement pour vous recadrer un petit peu dans quels sont les outils aujourd'hui dont on peut se servir le praticien pour revendiquer des objets culturels. Vincent Negri a évoqué tout à l'heure les conventions de la Haye. Donc jusqu'aux conventions de la Haye de 1899 et 1907, le butin de guerre était légal. Donc il faut attendre ces conventions pour rendre le butin de guerre illégal. Après la Seconde Guerre mondiale, on a une nouvelle convention de la Haye de 1954 qui va plus loin dans l'interdiction de la destruction ou du butin en temps de guerre. Et puis, on arrive à la convention UNESCO de 1970 qui, là, organise la lutte contre le trafic illicite des biens culturels et va mettre en place des concepts qui vont énormément servir dans la suite pour protéger les objets contre le trafic illicite. Et puis, une convention UNIDROIT de 1995. Et toutes ces conventions internationales ont pour but, justement, de lutter contre le trafic illicite et d'organiser éventuellement le retour des biens culturels qui ont été l'objet d'appropriation illicite. Pour revenir au droit des spoliations et vous en dire deux mots, parce que ça vous donnera quelque chose de plus concret sur les revendications et la manière dont peut réagir un tribunal ou de personne à personne dans des négociations, comment les choses peuvent se passer. J'en reviens donc au problème des spoliations pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on s'appuie sur une déclaration solennelle qui a été faite par 17 pays alliés à Londres le 5 janvier 1943, qui déclarait illicite toutes les appropriations menées par les nazis dans les territoires occupés. Alors, c'est sur cette déclaration solennelle de Londres du 5 janvier 1943 que le droit des restitutions va être organisé après-guerre. Et j'insiste sur une particularité dans l'océan du droit des restitutions, de tous ces sujets dont on traite depuis ce matin. Une des particularités de ce groupe de restitutions et de revendications liées à la Seconde Guerre mondiale, c'est que là, les appropriations ont été faites au détriment de particuliers, de civils. Donc on mélange à la fois le droit de la guerre, puisque normalement, en temps de guerre, les civils sont protégés, du fait notamment des conventions de la Haye de 1899 et de 1907. Et malgré cette protection du droit de la guerre, les nazis ont largement pillé au détriment des populations, en particulier des populations juives persécutées. Et donc on s'est retrouvé après-guerre avec un nombre énorme de biens qui avaient été transportés des territoires occupés, notamment vers l'Allemagne. Donc pour aller très vite, ces objets, je vais me concentrer sur la France, les objets qui ont été retrouvés en Allemagne et rapportés en France ont été pour partie restitués, pour partie vendus au profit des domaines, et les objets les plus importants, qui ont été choisis par une commission de choix artistique, ont été déposés dans les musées. Il y en avait environ un peu plus de 2000, et ce sont ces objets qui s'appellent les fameux MNR, Musées Nationaux Récupération. Tout ça pour en dire deux mots par rapport à ce qui a été dit dans les interventions de tout à l'heure. Ces objets MNR ne sont pas la propriété des musées, donc ne sont pas partie des collections nationales. Et pourtant, et là on en revient peut-être à la personnalisation des objets et à cet aspect un peu affectif qu'on met très vite sur les biens culturels, on assiste vraiment à un affrontement entre les héritiers des personnes spoliées, qui personnalisent en quelque sorte ces objets comme des reliques, puisque ce sont des récipients de la mémoire de ceux qui ont été persécutés. Et en face, on a les conservateurs de musées qui, malheureusement, depuis 65 ans, conservent, plus de 65 ans, conservent ces objets déposés dans les musées nationaux. Et on a cet affrontement terrible qui fait que, en réalité, on n'arrive pas à sortir de cette logique. D'un côté, ceux qui mettent dans ces objets un affect lié à un devoir de mémoire, et de l'autre côté, des conservateurs qui, finalement, font leur devoir, c'est-à-dire de conserver les objets dans les musées, nonobstant le fait que ces objets, en réalité, ne sont qu'en dépôt temporaire et devraient donc pouvoir être restitués facilement. Voilà, je voulais simplement aller rapidement sur ce sujet qui me paraît important, parce que on s'est interrogé tout à l'heure dans le panel précédent sur la place et le rôle des conservateurs, des gens de musée dans ce dialogue qui doit s'instaurer entre les conservateurs, les musées et ceux qui ont vocation à recevoir en retour, je ne dirais pas les restitutions, mais j'aime bien ce don en retour des objets qui ont été conservés pendant très longtemps dans les musées. Voilà, je vous remercie.